Chapitre quatrième. Qu'il ne faut pas confondre l'amour bien ordonné de soi-même avec l'amour-propre. Le péché originel a causé de grands désordres en l'homme. Avant ce funeste péché, l'homme se sentait porté vers Dieu. Il recherchait son Dieu. Il ne cherchait qu'à lui plaire sans retour sur lui-même. Après sa chute, il ne peut souffrir sa sainte présence et il se cache. Voir Genèse 3, 8. Il abandonne son Dieu, son souverain bien, pour se porter avec passion vers les créatures. Avant ce funeste péché, il aimait son prochain en Dieu, il se réjouissait de son bonheur comme du sien propre, à peu près comme font les bienheureux dans le ciel. Après sa chute, il n'a plus vu dans son frère qu'un être sans conséquence, qu'un rival, et même souvent qu'un ennemi. Avant ce funeste péché, il s'aimait moins qu'il n'aimait son Dieu en lui-même. Depuis sa chute, il s'aime lui-même d'une manière désordonnée. Il recherche sa propre gloire et son bonheur dans la jouissance des misérables créatures. De là vient que la vraie charité que l'homme peut et même doit avoir pour lui-même est presque inconnue sur la terre. Cependant, il est certain qu'il existe un amour de soi-même que la vraie piété non seulement permet, mais ordonne. Il est certain que cet amour, comme celui du prochain, fait partie du grand commandement de la charité. Aimons-nous non comme étant à nous-mêmes, mais comme appartenant à Dieu, comme étant ses enfants. Ayons soin de notre personne, non selon nos désirs et nos inclinations corrompues, mais parce que Dieu le veut et qu'il le commande. Traitons-nous avec respect et honneur, non par vaine gloire, mais parce que nous sommes les images et la ressemblance de Dieu, par la nature et surtout par la grâce. Et alors, l'amour que nous aurons pour nous-mêmes sera non seulement permis, mais même surnaturel et divin. Oh, qu'un tel amour est différent du misérable amour-propre dont nous avons parlé. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'un l'emporte sur l'autre. Examinons les caractères de l'un et de l'autre. La charité que nous devons avoir pour nous-mêmes nous porte à nous aimer en Dieu comme quelque chose qui appartient à Dieu. L'amour-propre ne considère que soi et n'aime que soi. La charité nous excite à nous aimer pour Dieu, à tout rapporter à sa gloire, à chercher en lui notre repos et notre bonheur, comme notre premier principe et notre dernière fin. L'amour-propre rapporte tout à lui et ne songe qu'à se satisfaire en tout. La charité nous porte à aimer ce que Dieu aime, la vertu, la sainteté, l'amour de la vérité, la justice, la chasteté, l'humilité, la patience, la prière. L'amour-propre n'a d'estime et d'affection que pour la beauté et les agréments du corps, pour les talents de l'esprit, pour les succès temporels, pour les dons de la fortune, et tous les autres avantages qui peuvent flatter les sens. La charité nous inspire le désir de mener une vie cachée aux yeux des hommes, de n'être vue que de Dieu seul. Elle nous porte à l'oubli de nous-mêmes, ou si nous faisons quelques replis sur nous-mêmes, elle nous fait considérer en nous des objets, sinon dignes des vengeances du ciel, au moins bien peu digne de ses faveurs. L'amour-propre nous porte à paraître, aux yeux des hommes par orgueil. Ils nous crient sans cesse comme les parents du Sauveur. Manifeste-toi au monde. Ils portent l'homme à ne voir que soi dans le bien qu'il fait, pour s'applaudir en secret ou se faire admirer en public. La charité nous donne une haute idée du prochain qu'elle considère en Dieu, pour ce qu'il est ou pour ce qu'il peut devenir par la grâce. Elle estime le don des autres, elle loue leur vertu, elle aime à la faire remarquer. L'amour-propre n'a que du mépris pour le prochain, il n'estime rien dans les autres, il ne peut souffrir qu'avec peine les louanges qu'on leur donne. La charité, ainsi que le dit l'apôtre, est douce, remplie de bénignité. Elle cède facilement aux autres. Elle attend avec patience, de la bonté de Dieu, le succès de ses entreprises. Lorsqu'on la traverse, elle bénit ceux qui la persécutent. L'amour-propre est violent, impétueux, bizarre et absolu. Il veut que ce qu'il commande, que ce qu'il désire s'accomplisse à l'instant. La charité n'a en vue que Dieu et ses intérêts. L'amour-propre ne fait rien qu'afin qu'il lui arrive quelque avantage. La charité fuit toutes sortes de singularités. Elle ne veut rien de particulier, rien qui la fasse remarquer. L'amour-propre affecte l'extraordinaire. Il ne veut que ce qui n'est pas commun. Il recherche des dévotions particulières. Il aime et recherche l'éclat en toutes choses. La charité, dans la pratique des vertus, ne considère que la volonté de Dieu. Elle est aussi constante et aussi fidèle dans la peine et la désolation que dans la joie et les consolations spirituelles. L'amour-propre, même dans le service de Dieu, ne recherche que les aises et le repos. Quand les douceurs spirituelles lui manquent, il abandonne tout et perd courage. Enfin, la charité est toujours soumise à Dieu et aux ordres de sa providence. Elle ne considère que Dieu dans la personne de ses supérieurs et leur obéit avec joie et empressement. L'amour-propre ne connaît d'autre supérieur que lui-même. Il n'a d'autre guide que ses caprices et sa propre volonté. Quel étonnant contraste! Qui ne voit maintenant qu'il y a une distance infinie entre le vrai amour de nous-mêmes et l'amour-propre? Mais comme dans la pratique, à cause du penchant que nous avons à nous rechercher nous-mêmes, le passage de l'un à l'autre est très difficile et que nous aimons à nous faire illusion. Les saints ont toujours été dans la défiance, ils ont toujours regardé l'amour-propre comme le plus habile des flatteurs, comme le meurtrier de la vertu et le plus dangereux des ennemis. C'est pourquoi ils ont fait une guerre continuelle. Ils ont eu pour eux-mêmes cette sainte haine tant recommandée par Jésus-Christ dans l'Église, dans l'Évangile. Voilà pourquoi ils se sont fait une violence continuelle. Ils ont porté tous les jours leur croix. Enfin, c'est pour cela qu'ils se sont efforcés de mourir tous les jours à eux-mêmes, et c'est ainsi qu'ils sont parvenus par le chemin étroit à la véritable vie et au royaume des cieux. Heureux celui qui marche sur leurs traces, qui fait une guerre continuelle au vieil Adam, à la nature corrompue. La peine passe, la récompense est éternelle, mais ne quittons pas encore une matière si importante. Nous pouvons, nous devons donc nous aimer nous-mêmes. Si la loi de Dieu n'exprime pas ce précepte positivement, c'est qu'il n'était pas nécessaire de le faire. La nature porte nécessairement l'homme à s'aimer lui-même. Il peut se méprendre, comme dit saint Augustin, sur l'objet de son amour. Il peut s'écarter de la vérité, il peut faire consister le bonheur où il n'est pas, mais dans tous les cas, il est vrai de dire qu'il s'aime lui-même. Il appuie son assertion sur une parole de l'apôtre qui assure que personne n'a jamais eu en haine sa propre chair. Le commandement dont nous parlons est néanmoins suffisamment exprimé dans l'Évangile, car Jésus-Christ, notre Sauveur, en nous disant « Vous aimerez votre prochain comme vous-même », en nous commandant d'avoir pour le prochain un amour égal à celui que nous avons pour nous-mêmes, suppose assez et fait entendre que nous devons nous aimer nous-mêmes. Mais comment devons-nous nous aimer? En quoi consiste le précepte qui nous ordonne de nous aimer nous-mêmes? Voici le point important, voici ce qui demande certains développements. L'épouse des Cantiques, parlant de la charité, dit que son époux a réglé lui-même en elle son amour. Cantique 2, 4. Le nôtre doit l'être aussi. Sans cela, ce n'est plus une vertu. La charité, quoique unique au fond, a néanmoins trois objets. Dieu, nous-mêmes, le prochain. Et ces trois objets doivent être aimés d'une manière différente. Voici comment. Première règle, nous devons aimer Dieu avant tout et sur toute chose. Son souverain domaine, ses perfections infinies, demandent que tout soit sacrifié à son amour et que tout soit pour lui par un amour de préférence. Le cœur, l'esprit, les forces, tout doit être employé à son amour. C'est là le plus grand et le premier des commandements. Deuxième règle, nous devons, après Dieu, préférer notre âme, notre salut, notre perfection, notre bien spirituel à tout le reste. Que sert à l'homme, dit le Sauveur, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il perd son âme? Maxime sublime qui a rempli la terre de justes et le ciel de saints. C'est elle qui détacha Saint Xavier de lui-même et du monde, et qui lui fit faire tant de choses, endurer tant de travaux pour les biens éternels. Il suit de là que notre première obligation, que notre première charité après Dieu, c'est nous-mêmes. Que nous devons chérir avant tout notre âme, qui est la plus précieuse partie de nous-mêmes, et faire tout ce dont nous sommes capables pour la rendre éternellement heureuse par la possession de souverains biens. Il s'ensuit que nous devons chérir notre perfection par-dessus tout, et être dans la résolution de tout perdre et de tout souffrir, plutôt que de rien faire contre les intérêts de notre âme. Que nous devons, en un mot, imiter les saints martyrs et tous les saints qui ont préféré les intérêts de leur âme à la vie et à tous les biens du monde. Nous ne devons donc jamais, ni pour procurer des biens temporels au prochain, ni même pour gagner des âmes à Dieu, nous ne devons rien faire qui puisse nuire à nos intérêts spirituels, car Dieu ne veut pas que nous travaillions au salut des autres en nous négligeant nous-mêmes, en nous dérobant nous-mêmes à lui. Il s'ensuit enfin que nous sommes absolument obligés de renoncer à tout emploi qui serait incompatible avec notre salut et notre perfection. Il est cependant nécessaire de prévenir ici une erreur, ce serait de vouloir renoncer à un emploi qui est dans l'ordre auquel Dieu nous a appelés, sous prétexte que nous y trouvons des difficultés et peu de temps pour penser à nous-mêmes. De même qu'en aimant Dieu, nous nous aimons, qu'en évitant le péché, nous nous aimons, de même en travaillant au salut du prochain, en lui rendant service, nous nous aimons nous-mêmes. C'est une règle certaine enseignée par tous les docteurs que nous serons plus en sûreté, que nous travaillerons plus efficacement à notre salut au milieu des embarras des emplois les plus pénibles lorsqu'ils sont dans l'ordre de la Providence et conformes à l'obéissance que dans la retraite et la pratique habituelle de l'oraison et de la pénitence. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons rien sans la grâce de Dieu et qu'il ne l'accorde d'ordinaire qu'à ceux qui font sa volonté, qui sont soumis à l'obéissance et dans l'ordre de la Providence. Troisième règle, nous devons préférer le salut du prochain à nos biens temporels. Nous devons l'aimer comme Jésus-Christ nous a aimés. Or, ce divin Sauveur a tout sacrifié, sa vie même pour notre salut. Aimerions-nous vraiment nos frères si nous ne sacrifions pas avec joie des biens aussi fragiles que le sont les biens temporels pour des biens aussi excellents que le sont les biens spirituels et le salut des âmes? Voyez le grand apôtre. Oui, mes frères, dit-il aux Corinthiens, oui, je me sacrifierai, et je me sacrifierai encore très volontiers pour le salut de vos âmes. Il dit ailleurs, oui, je suis prêt à être anathème, à souffrir tous les maux imaginables pour le salut de mes frères. Quelle charité! Et nous ne serions pas disposés à sacrifier quelques biens temporels pour ces âmes éternelles, pour ces âmes si grandes et si belles qui doivent louer Dieu éternellement? Si donc le salut du prochain l'exige, nous devons sacrifier pour une si grande œuvre nos biens temporels. Quatrième règle, en ce qui concerne les biens temporels, les biens du corps, nous pouvons nous préférer au prochain. En effet, d'après l'Évangile, notre première charité, le modèle de celle que nous devons avoir pour les autres, c'est nous-mêmes. Cette règle paraît générale et peut s'appliquer aussi au temporel. Hélas, dit un auteur de tous les préceptes de la charité, le plus au goût de certains dévots, c'est celui de commencer par soi-même. Telle n'a pas été la maxime de saint Paul et de tous les héros du christianisme. Ils n'ont jamais connu ces maximes dont il est si facile d'abuser. Il ne faut pas se détruire, il faut se conserver pour la gloire de Dieu, etc. Autant ils avaient de zèle pour le salut de leurs âmes, autant ils étaient indifférents pour les biens corporels et temporels. Ils ont sacrifié leur repos, leurs biens, leur santé et leur vie même pour leurs frères. Cinquième règle, toute chose égale d'ailleurs, nous devons préférer le bien public, le bien général au bien particulier. Nous devons, dans le premier cas, faire des sacrifices que nous ne ferions pas pour des particuliers. Nous devons encore souvent faire des parents pour des parents et pour des amis ce que nous ne ferions pas pour d'autres. Mais les choses parlent ici d'elles-mêmes et n'ont qu'un rapport indirect à notre sujet. Revenons à la charité que nous devons avoir pour nous-mêmes. On a dit avec raison que la vertu n'était qu'un amour bien réglé et le vice un amour désordonné. Il résulte de ce que nous avons dit que l'amour-propre est un amour désordonné et par conséquent un vice que nous devons éviter avec soin, que le vrai amour de nous-mêmes est un amour bien réglé et par conséquent une vertu digne de toute notre estime. Comment distinguer l'un de l'autre? Par les effets, ainsi que nous l'avons dit. Celui qui est dominé par l'amour-propre rapporte tout à lui-même. Il est son centre et sa fin. De là des maux infinis. Il s'éloigne de Dieu qui est sa fin suprême. Il transporte à la créature l'attachement qui n'est dû qu'à Dieu. Il recherche des choses indignes de la dignité de son être. Tous les mouvements de son cœur sont déréglés. Il fuit ce qu'il devrait rechercher. Il court après les objets qui devraient lui inspirer la plus grande horreur. Tout ce qui est défendu irrite ses désirs. Les plus grands excès n'ont pour lui que de la douceur. L'injustice et le mensonge ne lui coûtent rien lorsqu'il peut en retirer quelques avantages. La vengeance est pour lui un plaisir, et le crime souvent lui paraît un devoir. Faites-y attention, et vous verrez que c'est là l'histoire du monde corrompu, et par conséquent, qu'il est vrai de dire que l'amour-propre est la source empoisonnée de tous les maux qui inondent l'univers. L'amour bien réglé de nous-mêmes produit des effets bien différents. Cet amour porte l'homme à préférer Dieu à tout, à l'aimer comme le souverain bien, à ne s'aimer soi-même et toute chose que par rapport à lui. Oh, le bel amour! Celui qui a pour lui-même un amour bien réglé cultive avec soin son intelligence. Il orne son esprit de connaissances, mais il reconnaît que c'est à Dieu qu'il est redevable des talents dont il est doué. Mais il n'a d'autre but dans ses études que se rendre capable de remplir les emplois auxquels la Providence le destine. Mais il ne fait usage des dons que Dieu lui a départis, que pour le faire connaître et aimer de tous les hommes, que pour parvenir lui-même au bonheur éternel qui lui a été promis. Celui qui a pour lui-même un amour bien réglé veille avec soin sur tous les mouvements de son cœur. Il sait que c'est de là que procède la vie. Il sait qu'il n'y aura que ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. En conséquence, il retient ses sens dans le devoir. Il fuit toute vaine curiosité. Il réprime avec soin tout ce qui pourrait ternir la beauté de son âme. Celui qui a pour lui-même un amour bien réglé entretient la santé de son corps. Il ne néglige pas ses intérêts temporels, mais il le fait avec modération et pour de bonnes fins, pour la gloire de Dieu, pour l'édification du prochain et pour servir à sa propre sanctification. Il regarde son corps comme un serviteur destiné au service de l'âme. Il s'efforce donc de le maintenir dans un bon état, afin qu'il puisse bien remplir ses devoirs envers l'âme. Mais il ne lui donne que le nécessaire, mais il réprime ses convoitises pour l'empêcher d'usurper un empire qui réduirait bientôt l'âme en esclavage. Il ne craint même pas, à l'exemple des saints, de l'exercer par la mortification pour le rendre digne de participer à sa gloire dans une meilleure vie. Puissions-nous nous aimer de la sorte? Il en coûte sans doute pour cela. Pour en venir là, il faut marcher par la voie étroite. Il faut se faire violence, porter tous les jours sa croix. Tout cela paraît dur et difficile, mais quelle récompense! Le centuple en ce monde et la vie éternelle dans l'autre. Mais la joie de la bonne conscience ne vaut-elle pas un royaume? Mais le contentement qui suit une victoire sur soi-même n'est-elle pas une espèce de paradis sur terre? Mais Jésus-Christ n'a-t-il pas dit que son joug est doux et léger? Mais l'amour de Dieu et sa sainte grâce, répandue dans nos âmes par le Saint-Esprit, n'adoucissent-ils pas tout? Ainsi, confiance en Dieu, courage et persévérance, et nous verrons par une heureuse expérience, à l'exemple de tous les saints, que tous ceux qui se donnent sincèrement et entièrement à Dieu, qui veulent vivre selon les maximes de l'Évangile, éprouvent plus de joie et de consolation en se faisant violence, que n'en trouvent les pécheurs à suivre leurs inclinations perverses et corrompues.